Sortie de boîte. Sortie de boîte, Cédric Adrovert.
Je me demandais qui était ce motard qui sonnait à la porte. C'est comme ça que notre invité du jour m'a accueilli dans son entreprise. Oui, la Neuville, c'est joli à parcourir à moto. Et oui aussi, mon invité est directe. Elle se définit d'ailleurs comme trop carrée pour qu'un parti politique vienne la chercher. Bref, on monte dans son bureau, un bureau assez grand, en arc de cercle, avec des dossiers ici et là. Dans la même pièce, on peut voir un autre bureau, celui du co-directeur de l'entreprise, son ex-mari. Et c'est pratique, quand on lui pose une question un peu trop technique, elle n'a qu'à se retourner pour directement lui demander. Elle, c'est dans l'administration qu'elle est spécialisée. On discute, une heure, plein de sujets sont évoqués, le polissage, bien entendu, c'est l'activité de l'entreprise Auclin SA, mais aussi le secteur horloger, la place des femmes, la moto, elle en a fait, le bateau, elle en fait toujours. On parle de tout et de rien, de politique, de la question jurassienne et tout ça sans langue de bois. À plusieurs reprises d'ailleurs, elle me dit « ça, vous notez pas hein ». Alors je note pas, mais je sais que dans la prochaine demi-heure, la discussion sera tout aussi franche. Catherine Friot-Auclin, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue dans Sortie de boîte, on va parler de votre entreprise, donc du secteur du polissage. Malheureusement, on parlera aussi de crise horlogère. Malheureusement, toujours, on parlera d'inégalité homme-femme dans le milieu professionnel. Bref, les thèmes ne vont pas manquer avec vous et le temps va passer vite. Donc, on va profiter de faire tout de suite connaissance. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir aujourd'hui co-directrice et depuis un moment déjà co-directrice et copropriétaire d'Auclin SA ?
Ah, c'est une rencontre. Déjà un parcours peut-être géographique entre la France, la Suisse alémanique, le canton de Neuchâtel. Et canton de Neuchâtel où j'ai connu celui qui allait devenir mon mari et qui dirigeait l'entreprise familiale à La Neuville.
Quand on arrive aux responsabilités via une situation familiale, on a une pression supplémentaire pour montrer qu'on sait de quoi on parle, qu'on doit faire ses preuves.
Ah ben c'est évident, c'est évident. Je ne peux pas parler de mon bébé, puisque c'est mon beau-père qui a créé l'entreprise, mais je crois qu'avec le temps, c'est quand même devenu... On a souvent parlé avec le père de mes fils, c'était notre troisième enfant.
Le troisième enfant était l'entreprise.
C'est ça,
Diriger à deux, c'est pas toujours simple, en tout cas ce qu'on dit. Diriger avec son conjoint, beaucoup le déconseille. Comment on s'y prend pour que ça marche ?
Moi, je dirais probablement la première chose, c'est le respect mutuel. Le respect mutuel, la confiance. Et puis, Thierry et moi, on a la chance d'être complémentaires. Donc, on ne se marche pas sur nos plates-bandes.
Donc, il n'y a pas de conflit, de moment où il faut arbitrer, où il faut trouver une tierce personne. Ça a toujours bien fonctionné.
Alors non, oui, ça a toujours bien fonctionné. Maintenant, avoir d'autres personnes, c'est très important. Et puis, notamment par le biais d'un conseil d'administration avec deux personnes externes.
Votre cas est encore particulier parce que vous êtes séparés maintenant. Alors, on ne va pas entrer dans des détails personnels, mais comment on fait pour qu'une situation privée, elle n'ait pas d'impact, elle ne péjore pas les relations professionnelles ?
On me pose souvent cette question.
Ouais.
On me pose souvent cette question. J'ai dû y réfléchir. Je pense que il n'y avait pas une animosité telle que nous ne puissions plus travailler ensemble. Nous étions fortement impliqués aussi dans la société que nous venions de développer par le biais d'un nouveau bâtiment. Donc, c'était relativement frais. Il y a des gens qui nous avaient fait confiance. On avait des partenaires importants. D'abord, nos collaborateurs. Ensuite, la promotion économique du canton de Berne, et puis il était capital que nous puissions continuer à développer l'entreprise ensemble.
Ce troisième enfant, cette fille, en tant que co-directrice, vous avez les responsabilités, parfois on imagine les nuits blanches, vous avez quels avantages en échange ?
Oui, des nuits blanches, il y en a. je pense la liberté, certainement.
C'est pour ça qu'on...
Je crois que la liberté, l'indépendance... Il est clair que les décisions qu'on prend, on ne pourra pas dire que ce n'est pas notre faute. Hein. Donc, on doit. C'est une responsabilité, mais finalement, je crois que ça me convient bien.
C'est cette liberté qui vous fait vous lever le matin, vous dire je travaille pour moi ?
C'est rigolo, mais je ne me suis jamais dit je travaille pour moi. Enfin, pas dans cette vision-là, je travaille pour nous. Le fait que je sois copropriétaire. C'est un élément, mais je ne pense pas que le fait de... Avant d'être copropriétaire, j'avais le même investissement. Donc, je pense que je n'ai jamais regretté, même dans les moments difficiles, d'être à la tête de cette entreprise.
Les femmes sont assez rares aux responsabilités, hein, notamment dans votre secteur. Vous êtes membre du cercle suisse des administratrices. Comment vous expliquez qu'il y ait aussi peu de femmes aux responsabilités?
Je pense qu'il y a un aspect déjà historique. Historique où, dans l'industrie, il y avait surtout les hommes, hein, parce que il y avait un schéma traditionnel de la femme à la maison et l'homme au travail. Donc, les sociétés se sont montées comme ça. Les femmes sont entrées dans l'industrie relativement tardivement. Les formations n'étaient pas non plus adaptées. Il y avait des modèles filles-garçons, donc les femmes n'allaient pas spécialement dans l'industrie.
C'est plus le cas aujourd'hui.
Non, alors c'est plus le cas aujourd'hui. Maintenant, il y a toujours encore une faiblesse au niveau des infrastructures d'accueil. Donc, dès que la maternité se conjugue aux difficultés, au travail, c'est un peu compliqué quand les enfants sont petits. Et puis, il y a beaucoup de femmes. Ça demande beaucoup de courage.
Vous avez vécu ça, hein, vous avez eu des enfants petits. Comment vous avez géré?
Alors, paradoxalement, je dirais que c'est un atout d'être à la tête d'une entreprise parce que vous n'avez de compte à rendre à personne. Si votre gamin est malade, vous débrouillez autrement. Vous allez travailler le soir, vous allez travailler le week-end. Moi, je rends plus hommage presque à mes collaboratrices ouvrières ou aux femmes qui travaillent dans d'autres secteurs, que ce soit dans la vente ou autre, où c'est beaucoup plus compliqué pour elles de gérer cette situation.
Aujourd'hui, pour vous, si on souhaite améliorer, c'est dans les structures d'accueil que ça se fait au niveau politique, c'est les mesures qui seraient à prendre, améliorer les structures d'accueil?
Notamment, mais il pourrait y avoir une autre répartition du travail au sein du couple, par exemple. Alors c'est clair que le père de mes enfants s'est beaucoup investi également.
Les quotas, vous y êtes favorable?
J'y étais pas, mais j'y suis, oui. J'y suis maintenant.
Pourquoi?
Alors, je vais vous dire pourquoi j'y étais pas. C'est que j'étais dans les remarques traditionnelles qu'on entend de la part des femmes qui sont contre les quotas, et des hommes également, c'est dire on veut pas être des femmes alibis, on veut pas... Je suis arrivée à être pour les quotas parce que je crois qu'il y a une inertie telle que si on attend effectivement que les femmes soient... probablement pas en équivalente, c'est pas du 50-50, je suis pas pour des quotas à 50-50, ce serait juste irréaliste. Mais je crois qu'il faut donner un petit coup de pied au destin, quoi, et puis...
Une impulsion.
Une impulsion pour que les femmes aussi prennent confiance en elles, parce que c'est pas seulement une histoire d'hommes, hein, je crois pas qu'il y ait des hommes qui décident délibérément de ne pas prendre de femmes de leur conseil, je crois qu'ils ont quand même drôlement évolué.
Des femmes, il y en a beaucoup dans votre entreprise, justement. Ouais. Allons-y, une entreprise de polissage. Pour les néophytes, comment vous décririez votre activité? C'est quoi le polissage?
Alors le polissage, c'est un art de rendre une surface belle. Voilà, je ne sais pas si c'est assez simple.
Tout simplement. Pour un peu illustrer ça, on va directement s'y rendre dans votre atelier, l'atelier d'Auclin S.A., direction La Neuville. On y retrouve votre ex-mari et co-directeur de l'entreprise, Thierry Auclin. Sarah Carole y est allée et a jeté un œil par-dessus l'épaule de l'une des polisseuses en pleine concentration.
Sortie de boîte.
C'est un exemple de toute petite pièce où le diamètre de la pièce fait, ils prennent le plan, 0,7 de diamètre et 0,55 à l'autre diamètre, à deux diamètres, sur une épaisseur de 0,26. Tout ça en millimètres. Hein. Donc c'est très petit et pour poser ça, il faut vraiment beaucoup de patience et pas avoir trop de café.
Là, vous pouvez nous expliquer ce qu'elle fait?
Là, elle est en train de poser ces toutes petites pièces, elle est en train de les poser sur un outillage plein à l'aide d'un chablon pour les disposer de manière géométrique afin qu'on puisse les coller facilement après et continuer le travail à faire dessus.
Mais c'est minuscule, on dirait des petits grains de sable en fait.
C'est à peu près la grandeur d'un grain de sable. Ici, c'est un fosse de collage. Donc les outillages venant des posages et remplissages vont être enduits d'une colle. On va chauffer et puis les passer ensuite sous une presse pour qu'elles soient toutes à la même hauteur et refroidir cette colle et maintenir les pièces fixes afin qu'on puisse les usiner après pour pas qu'elles tombent. Donc c'est une opération où pratiquement toutes les pièces passent par ici.
Ce qui distingue aussi le polissage, c'est que malgré qu'il y ait des machines, tout doit être fait à la main.
Énormément. C'est pratiquement tout manuel. Le polissage ne s'automatise pas. Donc c'est essentiellement le travail de Bruxelles. On n'est pas arrivé à mécaniser ou automatiser ça, c'est pas possible, les variétés de pièces sont trop grandes, on n'arriverait pas. Et les pièces sont très très petites, on descend jusqu'à du 20, 25 centièmes, je ne sais pas si ça dit beaucoup pour tout le monde, mais c'est très petit. jusqu'à certaines pièces qui peuvent avoir l'épaisseur d'un cheveu.
Sortie de boîte.
Et on ne parle pas de coiffure, mais bien de polissage. On est de retour au studio avec Catherine Friot-Klein, co-directrice de l'entreprise. Alors, on l'a entendu, hein, le métier demande beaucoup de finesse, beaucoup de précision. Vous parliez d'un art tout à l'heure. Du coup, le métier, il a évolué. Ça fait plus de 20 ans que vous êtes aux commandes. Il a évolué avec les années, ou c'est resté quelque chose de très artisanal, très traditionnel?
Alors, il est devenu encore plus artisanal, je dirais.
Ah oui, dans ce sens-là, donc.
Oui. L'entreprise a été fondée en 1945. Et à l'époque... Auclin traitait des pièces de toute gamme, parce que les décolleteuses n'étaient pas du tout précises, les burins non plus, donc il y avait des bavures, y compris sur des pièces qui allaient dans des mouvements relativement bon marché.
C'était vraiment de la finition.
Voilà, c'était un peu de la grosse cavalerie.
Oui.
Donc à mes débuts chez Auclin, on avait encore des pièces un peu comme ça, qu'on nous amenait dans des grosses caisses et qu'on livrait sur des mois. Maintenant, on est vraiment monté dans du très très haut de gamme, avec des exigences. Les outils de contrôle également, les moyens de contrôle ont fortement évolué. Donc, on regarde une pièce maintenant au microscope, on va voir tous les défauts, chose qui ne se faisait pas avant, quoi. Enfin, pas de cette façon, pas aussi poussée.
Donc, l'essentiel de vos clients sont dans le secteur du luxe?
Oui.
Oui, la grosse majorité, les autres entreprises n'auraient pas d'intérêt à passer par le polissage tel que vous le faites?
Ben non, parce qu'il y a une tellement grande plus-value, c'est des travaux à forte valeur ajoutée, c'est que du salaire, donc nos salaires en Suisse ne sont pas très bas. Et voilà, donc c'est certain que c'est un travail dont, si on peut l'éviter, on l'évite.
Le savoir-faire est extrêmement protégé chez vous, hein, on ne filme pas, on ne prend pas de photos dans l'atelier. Pourquoi autant de précautions?
D'une part, on a dans nos clients les plus grands. Les horlogistes sont des gens très discrets, donc ils n'aiment pas trop qu'on sache ce qu'on fait pour eux. On a aussi nos trucs. Voilà, on a nos trucs, donc on n'aime pas.
Les secrets de fabrication qui vous sont propres.
Oui, on a sur nos moyens nos moyens de polissage, nos façons de faire. Oui, on a des petits trucs comme ça.
Alors ça, c'est une question, parce que c'est vrai que si on tape atelier de polissage dans un moteur de recherche, on en trouve énormément. Qu'est-ce qui vous distingue de la concurrence, sans dévoiler les secrets? Quels sont vos trucs?
Alors, ce qui nous distingue, c'est que si vous tapez polissage sur un moteur de recherche, vous allez trouver tous les polisseurs de tout. Hein. Ça peut aller des pare-chocs de voiture... maintenant, si on se rapproche de l'horlogerie, ben, c'est des boîtes. Nous, on ne polie pas de boîtes. Alors qu'il y a beaucoup de polisseurs de boîtes dans l'arc jurassien. On est vraiment dans une niche. Alors, le polissage, c'est déjà un secteur particulier de la mécanique, la micromécanique. Et nous, dans le polissage, on est encore une niche particulière, puisqu'on polie que les toutes petites pièces du mouvement, les axes, les vis, les ponts, enfin, toutes ces petites pièces qu'on entend dans le reportage.
Et du coup, vous êtes en quelque sorte des sous-traitants de sous-traitants. Si on prend l'exemple d'une entreprise horlogère, corrigez-moi si je me trompe, elle va commander des pièces à une autre entreprise qui va vous mandater pour le polissage. Ça fonctionne comme
exactement,
ça?
Exactement. Ouais.
Du coup, il n'y a pas un risque de verticalisation que les plus grosses entreprises décident d'intégrer directement l'activité de polissage? Comment vous vous protégez de ça, justement par un savoir-faire unique?
Le risque, il est là. C'est pas,
vous le ressentez?
Existe. Bien sûr. Ça, c'est pas nouveau. Maintenant, une entreprise qui développe son propre atelier de polissage, il y a une forme de légitimité. C'est comme de prendre deux polisseurs différents pour ne pas avoir les œufs dans le même panier, ça on peut comprendre. Maintenant, ce qui fait notre différence, c'est que sur des protos, des pièces particulières, ça demande quand même un niveau de savoir-faire important. Et puis c'est vrai qu'après plus de 70 ans de deuxième génération, toutes les pièces qu'on a vues circuler chez nous, de toute provenance, je pense qu'on a quand même des compétences qui expliquent qu'on existe toujours.
Là, le fait d'être sous-traitant de sous-traitant dans un contexte actuellement difficile, hein, il y a du chômage partiel dans votre entreprise, sûrement en conséquence du Francfort, ralentissement du secteur horloger, enfin bref, on sait que la situation économique n'est pas au beau fixe. Quand on dirige, comment on fait face à ce genre de crise?
On se débrouille.
Les nuits blanches.
Oui, je crois qu'on a la chance d'être une entreprise très saine. On n'a pas d'endettement très important. Je serais plus en souci si j'avais de grands leasing, si j'avais fait de gros investissements ces dernières années. On en a fait, mais c'est bon.
En même temps, ça fait plus de 20 ans que vous êtes aux commandes. C'est pas la première crise que vous croisez.
Non, alors. La cinquième, en tout cas.
Ah oui, la cinquième.
Oui. Oui, on parlait des vagues de l'horlogerie. La première, j'ai plus dormi pendant 6 mois. On m'a dit, mais tu verras, c'est une crise horlogère, ça passera. Elles se différencient maintenant. Elles ne sont plus tout à fait les mêmes, je crois. Elles sont plus brutales, elles sont plus profondes.
Elles empirent.
Oui, quelque part, oui. C'est plus la vague qu'on laisse passer et puis ça ira mieux après. Non, je crois que c'est... Ouais, il me semble que ça devient un petit peu plus grave maintenant.
Ouais, j'allais vous demander si on s'habitue aux crises, mais vous avez plutôt l'air plus préoccupé par les crises récentes que par celles que vous avez traversées.
Oui et non, parce que quand on en a vécu quelques-unes, on les sent venir, on sait comment réagir. On réagit vite. Au début, on ne réagit pas vite. La première, on ne veut pas y croire. On pense qu'elle va passer très vite. Et puis, on ne prend pas forcément les bonnes décisions.
On parlait de l'horlogerie. Une décision douloureuse. Ouais. Oui, on parlait de l'horlogerie. Et c'est un secteur qui, effectivement, traverse des turbulences. La diversification, pour moins dépendre d'un seul secteur, c'est une piste que vous explorez.
On est contraint, oui. Oui, alors on a d'autres secteurs, évidemment. On a d'autres secteurs.
Quoi, le médical
Médical, la micromécanique, l'électronique, la connectique, dentaire, l'appareillage, tout ce qui demande finalement un haut niveau de précision, un haut niveau de finition sur des pièces parfois aussi petites que l'horlogerie, parfois pas. Ouais.
Actuellement, si on devait donner un pourcentage, l'horlogerie, ça correspond à quoi?
On est à peu près 70%, 70-80%.
Oui, donc vous restez vraiment très dépendant encore du secteur horloger, comme beaucoup d'entreprises dans la région.
Absolument.
Une autre caractéristique de votre entreprise, c'est sa taille, son côté familial. Vous avez une quinzaine d'employés, certains y travaillent depuis 3 générations, beaucoup viennent de la région. Vous nous avez d'ailleurs raconté qu'une employée allait changer ou vider sa lessive pendant la pause. Bref, une entreprise de quartier, mais qui travaille à l'international. C'est quoi les avantages et les inconvénients de ce type de structure, de ce type d'organisation? Où tout le monde est très proche, en fait.
Alors, le premier mot qui me viendrait, ce serait la sérénité, peut-être. La sérénité est pour nos collaborateurs et pour nous. D'une part, parce que la proximité fait que... Et puis, la longévité des rapports de travail fait que, je pense, nos collaborateurs s'identifient vraiment à l'entreprise. On a coutume un peu de dire chez nous, ils se moquent un peu parfois de moi. Je dis, on est une grande famille, mais oui, on est une grande famille. On connaît... nos collaborateurs, les enfants, on suit les mariages.
voilà. Du coup, vous sentez que par rapport à une structure où les gens sont plus anonymes, vos collaborateurs sont prêts à se battre vraiment pour l'entreprise. On sent cette motivation.
Oui, ouais. Oui. C'est une grande satisfaction pour M. Auclin et moi, oui.
mais du coup, le revers de la médaille, quand il y a des mauvaises nouvelles, quand vous devez sanctionner un employé, ça doit arriver, c'est pas plus compliqué quand on est proche?
Non, je pense qu'il y a... Le respect mutuel, à nouveau, fait l'essentiel du travail, c'est-à-dire les sanctions. Vous savez, les sanctions, les collaborateurs l'ont tout de suite, ils n'ont pas besoin de la direction. D'ailleurs, on travaille sur les pièces de nos clients, on ne fabrique rien. Donc, on sait très bien que si on loupe une pièce, il va falloir en rendre compte, on ne peut pas cacher. Et donc, je crois que nos collaborateurs, ils ont cette conscience-là, et s'ils ne l'avaient pas, on n'existerait plus.
Hein. Du coup, le côté familial n'a pas d'inconvénient, selon vous?
Il peut avoir des inconvénients quand les liens sont très forts et puis qu'on doit prendre des décisions douloureuses. Oui. Là, c'est très dur.
Ouais, là, l'émotionnel
absolument,
arrive forcément.
Ouais.
On a entendu dans le reportage tout à l'heure, l'outil le plus important dans le métier de polisseur, c'est la Bruxelles. Et c'est aussi le cas dans d'autres secteurs. Chaque semaine, dans Sortie de boîte, Marie-Lise Saillard s'intéresse à l'horlogerie. Et ce soir, elle sort de son sac un tout petit instrument que vous connaissez bien dans le polissage.
Pile à l'heure.
Ce dont je vous parle aujourd'hui dans Pile à l'heure est personnel, très personnel. Il s'agit de la Bruxelles. Alors, rien à voir avec la capitale belge, la bière et le Mannequin Pis.
Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt, je prends la dérive.
La Bruxelles, c'est un outil, peut-être même l'outil principal d'un horloger. Mais à quoi ça ressemble et à quoi ça sert?
C'est des espèces de petites pinces à épiler qui servent à attraper les pièces.
Voilà, maintenant, on visualise. Valentin Gauthier sait de quoi il parle, lui qui est horloger spécialisé, et il ne va pas me contredire, un horloger tient beaucoup, mais alors beaucoup, à sa Bruxelles.
C'est vraiment notre outil de travail, c'est notre main en fait. C'est vraiment ce qui nous permet de tout faire et du coup c'est très précieux. Il y a plusieurs tailles de Bruxelles, plusieurs formes. Chacun aime une forme particulière, chacun vraiment a sa Bruxelles et la garde.
Et on n'aime pas qu'on la touche en notre absence?
Pas du tout. Non. Non, c'est très précieux.
Le message est clair, touche pas ma Bruxelles. Il y a des choses avec lesquelles on ne rigole pas. Un horloger est très souvent quelqu'un de maniaque, de sensible et d'observateur, en tout cas au travail. Le collègue de Valentin Gauthier, Marco Mäkinen, le prouve.
Après, on ne sait plus travailler correctement.
Si quelqu'un la touche...
Si quelqu'un a manipulé ma Bruxelles, après je dois retailler ma Bruxelles complètement. Que je puisse la manipuler comme je veux.
Et pour terminer, si vous voulez impressionner vos amis au cours d'un souper, sachez que Bruxelles s'écrit avec un C au milieu et toujours avec un S à la fin, même s'il n'y a qu'une pince. En Afrique du Nord, cet instrument est appelé mongèche.
Pile à l'heure.
Il y a aussi la guerre des Bruxelles chez Auclin SA.
Et comment, oui.
C'est vrai.
Alors, je peux vous garantir.
Et la mongèche, vous connaissiez le terme ?
Non, pas du tout.
Eh bien voilà, Catherine Friot-Auclin, vous pouvez l'exporter à la Neuville. On rappelle que vous êtes co-directrice d'Auclin SA, entreprise de polissage. On vous remercie d'avoir été notre invitée ce soir. Très bonne soirée.
Et patron propriétaire. Je crois qu'une de mes collaboratrices l'avait relevé.
Et voilà qui est dit.
Bonne soirée à vous.
Bonne soirée. Une enfin. Émission que vous pouvez réécouter dans son intégralité sur notre site internet. Sortie de boîte part maintenant en vacances, mais reviendra à la rentrée, parce que l'économie, ce n'est pas que des chiffres et des mauvaises nouvelles, c'est aussi des défis, des humains et de la passion. On vous souhaite un très bel été.
Sortie de boîte.